pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Quand on est festivalier, festivalière, on n'est pas seul, on est en communauté. Il y a des gens autour de nous.
On n'est pas tout seul sur Terre, on n'est pas la seule référence. Il y a plein d'autres personnes qui ont des vécus différents. Donc on fait attention aussi aux autres. Pour créer un climat de fête pour tout le monde, ben oui, on ne rit pas de tout et pas tout seul et on fait attention, quoi.
Des fois, il y a des gens qui nous disent « Oh, on peut plus rien dire, oh, les féministes de merde !» Ben ouais, mais non, en fait, parce qu'il y a des gens autour de toi que ça violente potentiellement.
Il ne s'agit pas de s'interdire de faire des choses, d'être pudibon, faire la morale, réduire les fêtes, les plaisirs, les joies. C'est plutôt élargir ça à tout le monde, en fait. Un pas vers la liberté, mais pour tous, qu'il n'y ait pas qu'une partie de la population pour qui c'est la fête et pour qui c'est la liberté. Donc se former, se déconstruire, moi je trouve ça assez merveilleux en fait. Un grand espace de liberté qui s'ouvre devant nous.
Comment mieux faire la fête? C'est l'une des questions que l'on se pose à nouveau avec vos deux invités d'aujourd'hui, Sylvie.
Bonjour.
Et Mélo.
Bonjour.
De l'association Les Établis, dont vous avez fait la connaissance au dernier épisode de cette série autour des VHSS, violence, harcèlement, sexiste et sexuel. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à vous pour le second chapitre de cette série produite autour du festival Au Quart de Tour, organisé par Radio Béton depuis 1986. Ce qu'on vous raconte ici se passe donc à Tours, en région centre, mais pourrait se passer partout. Et on espère bien qu'où que vous soyez, ça vous donnera du grain à moudre, puisqu'on parle de culture festivalière, associative et militante. Au premier épisode, Sylvie et Mélo vous ont donc raconté comment elles ont monté Les Établis, leur asso dédié à la lutte contre les violences sexistes et les discriminations, notamment en milieu festif, comme par exemple le génial festival Au Quart de Tour qui brasse des milliers de gens cool. Mais hélas, comme partout, dans l'eau des festivaliers et autres, il y a toujours des relous plus ou moins conscients de leur pouvoir de nuisance. D'où la nécessité sur un festival d'avoir notamment des endroits sécurisants, des safe zones ou des zones safe, comme celle proposée par Sylvie et Mélo sur l'édition 2023 d'Au Quart de Tour, avec leur super dispositif Free Paillettes.
En fait, on est là pour vous maquiller, mais on est là pour vous aussi, pour que la fête soit belle pour vous. Ce dispositif Free Paillettes propose un espace safe où les personnes viennent s'asseoir pour recevoir un maquillage avec des paillettes. On est présente pour sensibiliser, faire passer des messages autour de la question des violences sexuelles et sexistes. Si ces personnes sont victimes, témoins d'un acte violent, d'un comportement problématique, elles peuvent venir nous chercher puisque nous sommes formés à la fois à intervenir auprès d'une personne victime, mais aussi auprès d'une personne autrice de violence. C'est un espace repéré dans les festivals. Les gens viennent nous voir pour des paillettes, mais pas seulement.
Ce qui est intéressant avec un stand paillettes et prévention, c'est que tout le monde vient. D'une manière générale, le milieu festif, c'est pour tout le monde. Un stand paillettes et prévention, tout le monde vient. Des familles, des enfants, des adolescents et des adolescentes, des personnes plus âgées, des hommes, des femmes, des personnes de tous les genres, toutes les orientations sexuelles. C'est vraiment un échange entre les personnes et nous. On voit les gens changer de visage en fait quand on leur explique pourquoi les organisateurs et les organisatrices de festivals nous ont fait venir. Et là, d'un seul coup, ils se mettent à réfléchir. Il y a des gens pour qui l'émotion est très forte tout de suite. On est prête à accueillir cette parole-là en fait. Choses auxquelles on est formé. Et l'écoute, c'est pas si simple de recevoir des récits, témoignages de violence ou de souffrances psychiques. Des fois, c'est très très fort, ça va très très loin, ça peut durer très longtemps, les entretiens.
Mais Les Établis, c'est pas seulement Free Paillettes. Sylvie et Mélo proposent aussi de la formation à la lutte contre les VHSS.
On a un volet de prévention dont Free Paillettes fait partie, mais on fait des safe zones, des formations pour les organisateurs et tout ça. On fait aussi de la formation et des ateliers là, pour sensibiliser, former aux violences harcèlement sexistes et sexuelles, mais aussi parler de consentement, de compétences psychosociales, parler de vivre ensemble, parler des émotions. Voilà, nous, on a aussi tout notre panel d'éducatrices spécialisées et autres formations dans notre arc. On intervient dans des centres sociaux, on intervient dans des centres de loisirs, dans les lycées, les universités, dans l'enseignement supérieur. Ça pourrait être très bien dans une entreprise aussi. sensibiliser à tous ces sujets-là, le sexisme ordinaire qu'on a évoqué, la culture du viol, et puis aussi tout le volet évolution de la chose. On n'est pas que dans le négatif tout le temps. Notre but, c'est aussi c'est que ça soit vertueux, que les gens apprennent des choses, qu'ils repartent avec des outils et qu'ils puissent, eux, transmettre des outils après autour d'eux. Sensibiliser leur entourage, c'est aussi ça. Notre but, c'est que ça se répartisse après autour de nous. Enfin, c'est clairement ce qu'on cherche à faire. Puis après, il y a un volet vraiment accompagnement des personnes victimes, témoins ou autrices de violences. Hein. Souvent, là, les personnes en demandent d'aide, en fait, des personnes victimes ou d'un entourage d'une victime qui nous dit « j'ai besoin d'aide ». Moi ou quelqu'un de mon entourage vit cette problématique-là, comment on fait ? On peut proposer des entretiens. Il y a un volet aussi, travail d'équipe et analyse des pratiques qui se fait avec Sylvie.
L'intérêt de la formation, c'est d'apprendre des choses, mais l'intérêt de la formation, c'est aussi d'interroger ses pratiques. Et effectivement, ce volet supervision et analyse des pratiques professionnelles, ça permet d'intervenir aussi auprès d'un public assez spécifique, les travailleurs sociaux, qui s'inscrivent dans la protection et eux-mêmes pris dans des biais cognitifs, du sexisme ordinaire, dans une banalisation des violences, parce qu'on en voit beaucoup. Des fois, il y a des petites violences ordinaires qu'on ne voit plus, tellement on est confronté à des violences hardes, hein, des viols sur enfants ou des maltraitances physiques, par exemple. Et donc ce volet formation associé à la supervision d'équipe ou à l'analyse des pratiques professionnelles pour faire évoluer toutes les pratiques professionnelles dans le champ du travail social, du care, les infirmiers, les infirmières, les kinés, avec les sages-femmes, avec tous ces métiers en relation avec l'humain, avec une prise en charge, avec des personnes vulnérables, tous ces métiers du care en fait.
Un bon festival, c'est aussi un endroit où absolument tout le monde se sent bien. Or, s'il y a des festivaliers comme des poissons dans l'eau, il y a aussi des personnes pour lesquelles un festoche peut présenter des aspects hostiles, fussent-ils aussi cool qu'au quart de tour. Pour la suite de cette conversation avec les établis, on va donc se mettre dans une ambiance de festoche avec un univers musical choisi par Sylvie. C'est pas de la chanson française, quoique...
Miss Kittin est française. C'est la techno-chantée. Miss Kittin, c'est une meuf aux platines et il n'y en a pas tant que ça dans les festivals. Ça nous paraissait important de représenter les meufs aux platines. Ça fait au moins 30 ans qu'elle se promène un peu partout dans le monde avec sa techno-chantée. Forever Ravers, on l'a choisie, Mélo et moi, parce que d'abord on est hyper fans. Puis qu'elle dit des choses chouettes, il y a peu de texte. Elle dit quand même qu'il faut danser jusqu'à la mort, et ça, nous, on est pro-danse jusqu'à la mort.
De vous retrouver, les établis, deuxième volet de conversation avec vous, qui va peut-être se dérouler de manière un petit peu informelle, et j'avais envie de démarrer avec une expérience personnelle. Je fréquente le festival Au Quart de Tour depuis 35 ans maintenant. D'habitude, je viens en vélo à Au Quart de Tour. L'an dernier, édition 2023, j'ai accompagné quelqu'un qui rentrait par la navette. Et donc, avec le flot des festivaliers et festivalières plus ou moins frais, m'est arrivé donc d'attendre la navette à la sortie du festival. J'ai été tout à fait effaré par le climat. C'est absolument pas propre à Au Quart de Tour, hein. C'est partout où il y a des gens qui se rassemblent. Donc Au Quart n'est pas un endroit moins safe qu'un autre. C'est la fête, c'est le festival. Est-ce que les toxiques, alcool et autres, jouent un rôle dans ce à quoi vous êtes confronté quand vous êtes en milieu festif et en festival ? Et je repense notamment à cet homme prédateur qui essayait d'harponner des jeunes femmes, plus ou moins en état d'ébriété, Heureusement, le type se comportait comme un éléphant dans un couloir, mais c'était sur le mode « Hey mademoiselle, si tu veux rentrer chez toi, avec mes copains on a une voiture, on te ramène si tu veux ». Donc, les endroits problématiques sur un festival, comme au car, c'est aussi à la sortie du site, il se passe des choses. Et puis peut-être dans la foulée de cette nouvelle conversation, depuis quelques années on entend parler beaucoup de GHB, dite « drogue du violeur ». Il y a une parade qui a été trouvée, hein. On peut mettre des caches protection, des capots sur les gobelets pour éviter de se faire droguer à son insu. J'ai aussi entendu parler de piqûres, ça ressemble presque à de la légende urbaine, mais vous allez peut-être pouvoir me dire plus sur ce type d'agression. Dire d'entrée de jeu, puis on va le marteler, qui qu'on soit, hein, homme, femme, personne queer ou autre, quand on est dans un endroit festif, un bar, une boîte, un festival... Par pitié, les amis, gardez votre verre à la main. Ne posez jamais votre verre sans surveillance. Quand on se commande un godet, on le garde à la main jusqu'à ce qu'il soit vide. Mélo.
On est d'accord et pas d'accord dans le sens où garder son gobelet à la main, c'est une chose. Droguer les gens à leur insu en est une autre. C'est-à-dire qu'on enseigne toujours aux victimes de faire attention à leur verre, de faire attention à leur tenue, de faire attention à leur comportement. Sauf que, du coup, on ne dit pas aux agresseurs de ne pas agresser. Donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire. À l'inverse, agresseurs, n'agressez pas, agresseuses, n'agressez pas. Ne soumettez pas chimiquement les gens puisque c'est interdit par la loi et ça a des grands risques mortels sur les gens. Et puis, en plus, on sait très bien que derrière, la volonté est d'agresser, de violer ou de voler. Donc voilà, moi j'inverse ta phrase de manière un peu provoque, mais parce que c'est important de aussi remettre la responsabilité là où elle est. Et la responsabilité, elle est dans celles qui sont des agresseurs et des agresseuses et qui font violence aux autres. Donc voilà.
C'est vrai qu'en milieu festif, en festival, on vient pour faire la fête, on boit des coups, on prend des prods, on s'amuse. Et tout ça, ça altère un peu notre conscience, la conscience qu'on a des autres, ça peut désinhiber. Mais attention, comme disait Mélodie, pour remettre la responsabilité là où elle est, c'est-à-dire... Quand une personne qui est sous prod ou trop alcoolisée agresse une autre personne, c'est pas à cause de l'alcool ou des prods. Certes, ça désinhibe, mais ça révèle aussi quelque chose de la personne, d'une volonté d'agresser l'autre, de le soumettre, de mettre la personne sous sa domination. On ne peut pas demander aux personnes, exiger de ne pas boire ou de ne pas consommer certains produits au prétexte que ça les rendrait violents. Non. Si les personnes sont violentes, c'est parce qu'elles sont violentes. Les produits, l'alcool désinhibe. Ça, c'est une certitude. Et c'est pour ça qu'en fin de festival, on voit bien, il y a beaucoup de personnes désinhibées, d'autres qui sont vulnérables. Hein. Les agresseurs savent les repérer, c'est une stratégie de repérer des personnes en vulnérabilité, de pouvoir effectivement s'approcher d'elles, de soit directement les agresser, soit de les séduire pour pouvoir ensuite, après un pseudo lien de confiance, pouvoir les emmener, les raccompagner et en fait profiter de cette vulnérabilité pour les agresser.
Il y a donc le fait que des choses mauvaises peuvent se passer sur le site d'un festival, mais aussi autour du festival.
Je pense qu'il y a effectivement des choses à penser, mais tous et toutes, c'est-à-dire les organisatrices, les prestataires, enfin voilà. Ça serait vraiment des grosses discussions à avoir, même avec la ville, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'on met en place pour que les sorties de site soient sécurisées, hein. Par exemple, à Tours, voilà, à partir de 2h du matin, quand les bars ferment, il n'y a pas forcément de tram pour rentrer, et ça peut mettre en insécurité. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à penser sur la sortie des événements, effectivement, parce que les violences, elles ne se passent pas forcément pendant l'événement. Et nous aussi, on dit aux personnes, hein, si il vous arrive quelque chose, que s'il se passe quelque chose après, ou dans leur vie perso, ou après le festival, je sais pas, la sortie et tout, ils peuvent nous contacter, nous demander de l'aide le lendemain. Ce qui est déjà arrivé, par exemple, sur des soumissions chimiques, hein, clairement, des gens qui nous disent un ou deux jours après, je crois que j'ai été victime d'eux, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez contacter le lieu pour en parler, pour voir s'il y a des caméras de surveillance? Voilà, donc il y a plein de choses à penser autour de ça. Et nous, on est très partisanes du fait que... aucun lieu n'est safe, de toute façon, puisque c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est les personnes qui sont là, qui ont des comportements violents. Alors ça peut être des personnes du staff aussi, hein, des fois malheureusement, dans les staffs, hein, y a des comportements pas ok. Et puis des fois c'est les festivaliers et festivalières ou les bénévoles, enfin voilà. En tout cas, en avoir conscience. Quand il se passe quelque chose sur l'événement, bah, dire que c'est pas ok que ça se soit passé, assumer un peu en tant qu'organisatrice et puis même... en tant que prestataire, là, comme nous, quoi, dire, bah voilà, il s'est passé ça, c'est pas ok, on aide les personnes victimes à être prises en charge, on les relais, vous pouvez nous en parler, enfin voilà. C'est des choses comme ça qui se pensent, en fait, qui se discutent entre tous les acteurs et les actrices, là, de la fête. Et ça, c'est vrai que les sorties de festival, c'est toujours un petit moment de tension, comme tu disais tout à l'heure, qui peut amener à des choses assez graves, ouais. Donc, à penser, à réfléchir, à parler entre nous, quoi. Là, comme ça, maintenant, tout de suite, il n'y a pas de solution. Parce que nous, des maraudes, on en fait sur le site, mais on ne peut pas étendre notre... Enfin, nous, on n'est pas à sécurité routière non plus. On ne peut pas étendre nos compétences au-delà de ce qu'on sait faire. Et puis, non, on n'a pas des heures extensibles non plus. Mais j'imagine qu'il y a des choses à créer, peut-être. Dancing till we die.
Dans les armes à la disposition de prédateurs, le GHB... Apparemment, c'est incolore, ça n'a pas de goût et ça se verse dans les verres des victimes. Qu'en est-il de ces histoires de piqûres ? J'arrive pas à savoir si ça relève de la légende urbaine ou festivalière. Vous en avez entendu parler, vous ?
Oui, on en entend parler encore, un peu moins, j'ai l'impression. On parle du GHB, c'est très peu utilisé, en fait, le GHB. C'est plutôt des produits genre anxiolytiques, somnifères, kétamines, qui sont utilisés pour mettre les personnes vraiment en état de, avec l'alcool en plus, pour peu que la personne ait bu de l'alcool. Ça agit plus vite et plus fort, mais ça agit aussi sur les personnes qui n'ont pas bu d'alcool, les mettre en état de somnolence, de perte de conscience, pour pouvoir abuser d'elles. Les piqûres, ça c'est vrai qu'il y a eu des grandes vagues de panique dans les festivals à cause des piqûres. Il y a eu une enquête qui a été faite il y a 2 ans, il me semble, par rapport à des personnes qui étaient venues déposer plainte pour des piqûres, soi-disant de GHB ou autres, pour de la soumission chimique. Et il s'avère que dans 90% des cas, il n'y avait pas de produit. C'était plus des groupes qui s'amusaient à piquer les gens avec des aiguilles, en fait, pour créer un vent de panique. Paris, entre eux, je ne sais pas. Et se dire, ah, c'est rigolo, ça fait paniquer tout le monde, quoi. Voilà, il faut savoir que ça existe. Ça n'est pas une légende. Que ce soit avec du produit ou sans du produit, ça existe vraiment. Pendant les festivals ou des événements, des personnes qui viennent nous voir ou qui vont voir la Croix-Rouge, ou les équipes, le staff, la sécurité, pour effectivement montrer qu'ils et elles ont été piqués, et ce ne sont pas que des petits moustiques. Le GHB, ça a été utilisé plus fréquent dans les verres qu'en piqûre, mais bien sûr que ça existe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de festivals qui fournissent des capotes de verre pour les festivaliers. Et les festivalières, ça arrive aussi aux garçons hein, d'être soumis chimiquement. C'est pas réservé aux filles, même si c'est plus fréquent. Mais oui, ça existe vraiment. C'est dramatique, ça a des conséquences très traumatisantes sur les personnes. Très souvent, elles perdent connaissance. Elles ne se souviennent pas de ce qui leur est arrivé. C'est aussi ça qui crée du trauma. Et il faut réagir assez vite pour faire des analyses, parce que ça disparaît très vite. Et évidemment, la plupart du temps, les victimes, entre le moment où elles perdent connaissance, ou des fois, il se passe 10 heures, au moment où elles se réveillent, elles se demandent où elles sont, ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé, appeler les copains, demander « mais on était où hier ?»« Qui m'a raccompagné ?» Enfin voilà, la perte de la mémoire est extrêmement traumatisante et fait perdre du temps aussi pour faire des analyses.
On va s'accorder un moment de légèreté musicale avant de continuer à parler de choses graves. Un peu de douceur avec Grande, un groupe de Tours Mélo.
Oui, nous on les a découverts à la Semaine des Fiertés 2021 sur scène. C'était génial, il y avait une très bonne ambiance. Et puis après, on les a revus plusieurs fois. Et This Fever, la chanson qu'on a choisie, en fait, le clip a été tourné en haut de la Tour Charlemagne. Et la description qu'ils en font, c'est, je cite, « C'est un morceau qui parle à tous ceux qui restent dans un petit coin, pas trop loin du buffet dans les fêtes, qui éteignent la radio quand tout est trop méchant, qui rêvent d'une maison au bord d'un lac ou au milieu de l'océan. Alors pour la chanter, on est allé se percher tout en haut de la ville, dans le silence du vent qui hurle, et c'était beau. Grande. »
Parties everywhere but not here me. I'm roaming over the country, tired of this fever, man. Tired of this fever, they fooling nobody but they're lurking on the ground, they are vermin. Tired of this fever, man. Tired of this fever, fine. I'm going overseas to
Suite de notre conversation avec Sylvie et Mello, les établis, on parle violence, harcèlement sexiste et sexuel, notamment en milieu festif. Alors que faire si la teuf tourne au vinaigre? Je vais reprendre le cas de figure d'Ocard de Tours. Si on a l'impression qu'il nous arrive un truc chelou, sans qu'il y ait vraiment de raison objective, on se sent un peu somnolent, ça va pas, aller signaler l'un des bars du festival, aller signaler que quelque chose ne va pas, ou si on tombe sur la maraude de la Croix-Rouge, c'est encore mieux, ou... Si vous êtes là, repérez la safe zone de Free Payette, par exemple, mais pas rester tout seul dans son mal-être, réagir et aller voir des gens.
Tu as raison, c'est important que les bars soient signifiés en amont du festival comme étant des lieux où on peut se réfugier ou ressources, où on peut s'adresser en cas de problème. Par exemple, j'ai l'impression qu'on a touché mon verre, ça le fait pas. Je me sens pas bien, je me sens somnolent. C'est important les safe zones, alors Free Payette ou pas que. Hein, nous, on fait souvent des collaborations avec des gens qui font de la RDR produit, pour le coup, de la réduction des risques produits. Et nous, on fait vraiment violence sexuelle et sexuelle, ce qui se complète mais qui n'est pas la même chose. Mais aussi, ce qui est important, c'est de... Enfin, quand on est festivalier-festivalière, on n'est pas seul. On est en communauté, il y a des gens autour de nous. Et donc quand on voit quelqu'un d'isolé, seul, en souffrance, par terre, je sais pas, en train de pleurer ou en train de dormir d'une manière ou qui paraît complètement désorienté et tout, ne pas hésiter à, soit on le fait soi-même parce qu'on peut, soit on demande à quelqu'un de la sécu ou à quelqu'un de la safe zone ou à quelqu'un du bar d'intervenir. Parce que parfois les personnes qui sont au moment où elles le sont vulnérables, elles ne le savent pas forcément elles-mêmes. Parce qu'elles n'en ont juste pas conscience, ou alors qu'il y a du trauma, comme expliquait Sylvie, et qu'elles sont incapables de dire « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide ». Des fois, ce n'est pas possible, souvent d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, quand on est festivalier, festivalière, d'avoir conscience de la responsabilité qu'on a aussi en tant que citoyen, citoyenne, en tant qu'humain, humaine, d'aider notre prochain, un peu hein, les gens qui sont autour de nous, et bah, de voilà, signaler « j'ai vu cette personne, est-ce que vous pouvez venir m'aider ?» Je ne sais pas quoi faire. C'est OK de ne pas savoir quoi faire, mais par contre, il faut essayer de déléguer tant qu'on peut. Parce que justement, là, on est tous ensemble. C'est-à-dire qu'il y a le staff, les bénévoles, la sécu, les prestataires. Ça pourrait même être quelqu'un d'un food truck parce qu'il est juste à côté et on dit « est-ce que tu peux m'aider ?» Enfin, je veux dire, la personne du food truck, elle peut aussi contacter quelqu'un à côté. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi un truc de vraiment de communication en amont, pendant et tout, en mode « on est une équipe, quoi ». Et c'est, s'il y a des comportements problématiques, c'est pas OK. Mais s'il y a des personnes isolées en souffrance, c'est pas OK. Et on les aide et on fait quelque chose, tous ensemble. En sachant que des fois, les gens peuvent pas le faire eux-mêmes.
Quand on est en festival, par exemple à Ocard de Tours, on n'est pas juste consommateur de culture, de musique et de merguez et de bière. On est une micro-société. Même si on connaît pas les gens, on est ensemble, on fait communauté. Dans vos expériences de stand Free Payette en milieu festif et notamment en festival, est-ce qu'il y a de grandes catégories de questionnements ou de demandes? Ou est-ce qu'il y a des grands registres de trucs dont les gens viennent vous parler?
On ne va pas catégoriser les violences. Très souvent, quand on vient nous voir, c'est essentiellement des violences dites conjugales, violences entre deux personnes dans une relation... De couple, une relation amoureuse, peu importe le couple, Il y a des violences de couple dont on parle très peu. Nous, on s'en rend compte parce qu'on travaille beaucoup avec la communauté queer et LGBTQIA+. Les violences de couple gays et lesbiens, par exemple, où on pensait que les violences de couple, c'était que dans les couples hétéros. Alors certes, c'est très fréquent que ce soit dans les couples hétéros, mais pas seulement.
Cependant, il est indéniable que l'écrasante majorité des agressions sexistes et sexuelles sont commises par des hommes ou des adolescents, par des personnes masculines cisgenres. On le précisera au prochain épisode de cette série, au cours duquel vous nous donnerez des chiffres aussi officiels que stupéfiants.
Donc on nous parle beaucoup de ça et beaucoup de soumission chimique. Il y a quand même pas mal de personnes qui viennent nous voir pour témoigner avoir été soumis chimiquement et de la violence que ça a pu être. Il y a aussi une troisième violence dont on nous parle beaucoup. Et là aussi, c'est pour moi qui ai travaillé dans la prévention pendant 20 ans, c'est assez nouveau. C'est des hommes qui viennent parler d'agressions sexuelles. Ils sont victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance ou dans leur adolescence ou jeune adulte. Beaucoup d'hommes n'en ont jamais parlé parce qu'on est inscrit dans une société avec des stéréotypes de genre très marqués. Donc les hommes ont honte parce qu'ils sont des hommes, ils auraient dû se défendre. Honte d'en parler, honte de souffrir et en difficulté pour trouver un espace de parole aussi. Là, actuellement, il y a un gros travail qui est fait au niveau national autour de l'inceste hein, et des violences sexuelles sur les mineurs avec le travail de la CIVISE.
La CIVISE, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
Et Édouard Durand qui a libéré vraiment la parole des femmes, mais aussi des hommes. Arnaud Gallet aussi, enfin, il y a des hommes comme ça qui ont été des porte-paroles vraiment pour les victimes. Et on se rend compte que les violences sexuelles sur les hommes, elles existent et elles sont importantes.
En tout cas, dans tous les témoignages qu'on reçoit, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est dans tous les milieux, tous les domaines. Les MeToo, en fait, les hashtags MeToo, ça a révélé beaucoup de choses. Et on s'en aperçoit, il y a des gens qui témoignent sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais parlé avant, qui parlent pour la première fois. Donc ça a été d'abord MeToo, après ça a été MeToo inceste, MeToo garçon, là en ce moment, MeToo cinéma, MeToo sport, etc., etc. Et ça, c'est des espaces de parole, en fait, qui sont nouveaux, formidables. Même si ça ne solutionne pas tout, les gens peuvent enfin parler et on s'aperçoit de l'ampleur des dégâts et de l'ampleur des chiffres, en fait. Nous, c'est ça aussi qui nous a marqué avec Sylvie, c'est que à chaque fois qu'on vient avec Free Payette ou un autre dispositif, on a au moins un recueil de témoignages. Et je dis au moins un parce que souvent, c'est plusieurs. Et sur toutes les violences qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, quand on dit que sur une classe de 30 enfants, il y a potentiellement 3 enfants qui sont victimes d'inceste, ça veut dire ce que ça veut dire sur un festival, par exemple. Ça veut dire que sur la jauge de personnes présentes, il y a des personnes victimes, il y a des personnes autrices de violences, il y a des personnes témoins, il y a des personnes co-victimes, comme les enfants qui sont victimes de violences conjugales, même s'ils ne sont pas frappés eux-mêmes. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça englobe vraiment tout ça. Mais c'est toujours intéressant d'aller regarder un peu les chiffres, parce que c'est effarant. Et quand on recueille la parole des personnes pendant 5 heures, par exemple, de Free Payette, les gens ne se rendent pas forcément compte de l'impact que ça a. Mais nous, on s'en rend compte puisqu'on reçoit les paroles. Et pendant 5 heures, des fois, ça peut être 10, 20 témoignages. C'est énorme. Donc voilà, il faut avoir conscience aussi que tous les gens qui traversent tous les espaces de la société, comme je disais tout à l'heure, les mini-sociétés, c'est partout. C'est au travail, c'est dans le sport, c'est la famille d'abord, c'est l'école, c'est les amis. Parce que 90% des gens qui nous agressent, on les connaît. C'est très rare, hein, les agresseurs non connus de la personne victime, les agresseurs ou agresseuses. Hein. C'est très rare. Ça représente moins de 10%. Donc voilà, ça veut dire aussi quelque chose de cette société dans laquelle on évolue, et de l'impunité, et de l'autorisation à agresser. Voilà.
Puisqu'on parle des chiffres, j'ai cru entendre qu'en cas de plainte pour agression sexuelle, il semblerait qu'a priori, seulement 1% de ces plaintes soient concrétisées par des actions de justice et policières.
Ça concerne les agressions sexuelles et les viols qui parfois sont requalifiés en agressions sexuelles. Et effectivement, c'est 1% qui aboutissent. Pour les viols, je crois que c'est entre 3 et 4%. Tout à l'heure, je parlais de la CIVISE et du juge Durand qui interpelle la société et qui interpelle la justice et les politiques jusqu'au président de la République en disant « Qui voulons-nous protéger ? Les victimes ou les agresseurs. Lui, il parle de l'impunité des agresseurs. Il dénonce une justice qui protège les agresseurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un combat aussi à mener du côté de la justice pour que plus de plaintes ne soient pas classées sans suite, plus de plaintes aboutissent et que plus d'agresseurs soient condamnés. Le problème avec les classements sans suite, c'est que ça laisse la victime victime, mais pas reconnue victime, parce que les classements sans suite, souvent, sont donnés parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Alors, ça ne veut pas dire que l'agresseur n'est pas coupable, ça veut juste dire qu'il y a une non-reconnaissance du crime ou de l'agression parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Et ça, c'est assez choquant. En général, pour les victimes, c'est une violence de plus. Elles ne sont pas reconnues comme étant des victimes.
Alors, au cours de cette conversation, on a parlé de choses que j'oserais qualifier de spectaculaires, dramatiques, agressions sexuelles, coups, emprises chimiques. Mais est-ce que la violence est aussi présente de façon plus diluée ou ordinaire? Parfois, on ne la voit pas, et pourtant.
Comme tu dis, les violences dites spectaculaires, comme les viols, les crimes, les coups, les marques sur le corps, toutes ces parties visibles, c'est la partie émergée de l'iceberg des violences. Tout ce qu'on voit, et il y a tout ce qu'on ne voit pas, qui est la partie immergée, ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Les blagues sexistes, les remarques, les réflexions, les climats, ça peut être une scénographie, ça peut être des décors, ça peut être une façon de s'adresser à l'autre, toutes ces choses qui sont le terreau des ce qu'on appelle les VHSS, les violences et harcèlement sexuel et sexiste. Ce sexisme ordinaire, il existe, il est très présent. On est dans une société patriarcale avec une pensée très inscrite comme quoi l'homme serait supérieur à la femme, ce qui est déjà une pensée sexiste. Et ça induit tout un tas de comportements. C'est clair que si on veut éradiquer les viols, les coups, les crimes sexuels et sexistes, il faut s'attaquer à la racine, c'est-à-dire le sexisme ordinaire.
Tu mentionnais par exemple les blagues. Le sexisme ordinaire, comme beaucoup de choses d'ailleurs, passe tout d'abord par le langage, par les mots qu'on utilise, par la manière dont on s'adresse à l'autre.
Tout à fait. Le langage, c'est ce qui va notamment différencier le conflit de la violence, par exemple, parce que les conflits se règlent par le langage, alors que la violence, il n'y a pas de langage, en fait. Il n'y a pas de langage possible. Donc, il est clair que dans notre société, alors là, on va parler des organisateurs de festivals et puis des gens qui gravitent dans le festival et autour du festival. Quand on veut créer un climat serein pour tout le monde, il est important peut-être de faire attention au langage qu'on utilise et dans notre communication sur les réseaux et quand on accueille les festivals et festivals. Faire attention aux blagues qu'on peut faire, des private jokes par exemple qu'on pourrait se faire entre bénévoles et puis d'un seul coup en fait il y a une personne que ça va violenter parce qu'on n'avait pas pensé au fait que c'était une blague pour nous mais pas pour la personne d'en face. Enfin, nous, c'est vrai que ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, ou que ce soit dans les staffs ou dans les bénévoles ou dans les gens qui viennent nous voir sur les dispositifs de prévention. Ah, vous traitez de ces sujets là, bah ça tombe bien, je bats ma femme ou je bats mes gosses, ou ce soir j'avais envie de violer une fille, ça tombe bien. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui vont...
Ça arrive vraiment.
Ouais, on s'y est préparé parce qu'en fait, ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc on est préparé à ça, on est formé, on est pédagogue, on est patiente. Les produits aussi, la désinhibition, mais pas que. Des fois, ça vient vraiment du fond du cœur, tu vois, ce genre de réflexion. Donc quand c'est comme ça, on prend le temps de dire « attends ». Tu as entendu ce que tu viens de dire. Du coup, peut-être que des fois, il y a des gens qui nous disent « Oh, on peut plus rien dire. Oh, les féministes de merde. » Bah ouais, mais non, en fait. Parce qu'il y a des gens autour de toi que ça violente potentiellement. Et puis peut-être que ça vient pas de nulle part non plus de dire quelque chose comme ça, de faire des blagues sur des choses comme ça. Est-ce qu'on n'a pas d'autres sujets pour rigoler, pour parler entre nous, pour créer un climat serein, par exemple, dans un lieu festif qui est déjà un peu à risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a du bruit, il y a de la désinhibition pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, qu'est l'alcool, la drogue, mais aussi juste l'envie de faire la teuf et de se lâcher un peu. Il y a l'effet de groupe. Toutes ces choses-là, en fait, vont créer un climat. Et donc, quel climat on a envie de créer quand on est organisateuriste, quand on est staff bénévole et quand on est prestataire VHSS, etc. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble de petites choses mises bout à bout qui peuvent faire changer la donne aussi, quoi. En mode, ben ouais, peut-être qu'on fait pas un stand de « je me déguise en femme » ou « je me déguise en homme ». Par exemple, genrer les espaces, ça peut faire partie de créer un climat. Souvent, dans les festivals, on parle un peu des toilettes. C'est toujours un peu un sujet. Est-ce qu'on fait des toilettes hommes, des toilettes femmes, ou est-ce que bah, on laisse les toilettes libres à tous, des pissotières et tout. Enfin, c'est des vrais sujets, hein, tu vois, qui créent un climat. Donc le sexisme ordinaire aussi, il va s'infiltrer dans tout ça. Donc c'est comment on se regarde fonctionner aussi, et comment on fait attention un peu au monde qui nous entoure, et qu'on pense pas que c'est des blagues pour tout le monde, peut-être, que ça peut violenter les gens.
Peut-être en finir avec ce truc très fin des années 80, comme disaient des proches, peut-on rire de tout ? Oui, mais pas avec n'importe qui.
J'ai développé l'idée qu'on pouvait rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. C'est vrai qu'on n'est pas forcé d'avoir vraiment envie de se marrer quand on a Hitler à côté de soi, je veux dire. Mais on peut rire d'Hitler, en revanche. C'est ça que je veux dire. Et je crois qu'on peut, non seulement on peut rire de tout, mais on doit rire de tout. Et que le rire, c'est une espèce de palliatif aux angoisses existentielles. J'ai eu un courrier de gens qui m'ont reproché d'avoir ricané à propos du cancer. Bon, mais ce qu'ils savent pas, c'est que moi, j'ai quelqu'un dans ma famille que j'aime énormément, qui est mort d'un cancer il y a 6 mois. Et c'est depuis que j'ai pris le cancer pour cible. L'humour noir, c'est commencer par rire de soi, de ses misères à soi, et des choses dont on a peur. La guerre atomique, le cancer, c'est des choses dont il faut rire.
Finalement, je n'ai plus envie de rire de tout. Et ce truc de « on est insolent », comme on est tellement de gauche qu'on fait de l'humour au 18e degré, il y a des mots qui font mal. Et peut-être que la subversion, elle n'est plus dans le vocabulaire ordurier, mais peut-être dans une certaine retenue. Oh mon Dieu, déjà 2024.
Ouais, effectivement, on est en 2024 et c'est peut-être important de le rappeler. Maintenant, on a des chiffres, on a des données, des paroles qui se libèrent. Donc, effectivement, on ne peut pas rire de tout. Nous, avec Mélo, on se marre beaucoup. On adore rire, hein, mais pas de tout. Aujourd'hui, on a quand même une meilleure connaissance des impacts de la violence sur les personnes, sur les victimes, des connaissances sur le psychotrauma, sur l'amnésie traumatique. Voilà les conséquences physiques et psychiques sur la victime. Et c'est pour ça qu'effectivement, on ne peut pas rire de tout. On ne sait pas qui nous entoure quand on parle. Il y a des personnes qu'on connaît, surtout dans le milieu festif, mais il y a plein de personnes qu'on ne connaît pas. Et peut-être que ce sont des victimes qui retentent une sortie, tentative de faire la fête, de nouveau. Enfin, on ne sait pas, voilà. Et donc, on fait attention aussi aux autres. On n'est pas tout seul sur Terre. On n'est pas la seule référence. Il y a plein d'autres personnes qui ont des vécus différents. Et pour créer un climat de fête pour tout le monde, ben oui, on ne rit pas de tout et pas tout seul et on fait attention, quoi.
Le festival au quart de tour, festival organisé par Radio Béton, je m'en fais l'idée d'un festival au comportement en évolution et vertueux. Pour au quart, ce qui importe, c'est pas tant ton genre, est-ce que t'es un mec, une meuf, une personne queer, c'est est-ce que tu peux faire le job. Cependant, ces dernières années, j'entends, et particulièrement parmi les nouvelles générations, des dents qui grincent un peu, en disant « bon, et les boomers, là, ben, il nous arrivait hein, d'avoir des discussions un peu houleuses entre nous, et ça se voit très d'ailleurs assez clairement entre, disons, les trentenaires et les quinquas sexagénaires. Des fois, ça peut gratter un peu. Je trouve que c'est pas si mal ce qui se passe au quart, mais est-ce qu'on pourrait faire mieux ?
Avec Mélo, on dit toujours qu'on peut toujours faire mieux. On n'est pas parfait, toujours à apprendre. On ne peut pas se satisfaire comme ça, de se dire « Ah, je fais plus de blagues sexistes, c'est bon, je suis déconstruit ou déconstruite. » Pour faire mieux, mais il y a plein de possibilités. Ne pas hésiter à se former, on l'a déjà dit, hein, mais c'est vrai que c'est hyper important d'aller vers des gens qui partagent soit leurs expériences, leurs recherches, et qui communiquent sur ça, enfin... Se former, c'est quand même très important. Et j'invite d'ailleurs organisateurs et organisatrices de festivals, mais pas seulement, à se former pour être à l'aise avec ces sujets-là. C'est pas des sujets qui sont forcément très faciles. Se déconstruire, tout le monde en parle, mais c'est pas évident de se déconstruire. Pour certains, ça fait 50 ou 60 ans qu'ils sont dans un bain de langage qui est sexiste. On est dans une société quand même qui est sexiste, qu'on le veuille ou non. Il suffit de regarder les affiches, les publicités, partout, dans les supermarchés, la taxe rose, ça existe, les produits pour les filles qui sont roses sont plus chers que les produits pour les garçons qui sont bleus. Enfin, donc de toute façon, de la déconstruction, il y en a à faire tout le temps, partout, dans tous les endroits, dans toutes les sphères. Donc se former, c'est quand même très intéressant. Interroger ses pratiques, c'est intéressant. Discuter aussi de comment on communique, c'est intéressant. Donc faire ça avec, que ce soit les organisateurs, les bénévoles, mais avec tout le monde en fait.
Et puis ce qui est important pour nous aussi avec Sylvie, c'est de s'informer et de se former auprès des personnes qui sont concernées. C'est-à-dire que nous, on ne va jamais parler à la place des personnes concernées, mais par contre, on est formé au sujet, par exemple, je pense à la transidentité, aux personnes transgenres. Nous, on s'est formé en fait, parce qu'on n'est pas concernés toutes les deux par ça. On n'a pas à traverser ces questionnements-là, donc on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Donc, nous aussi, alors c'est pas une forme de déconstruction, c'est aussi c'est une forme d'apprentissage. En fait, on apprend toute sa vie et le but, c'est d'aller chercher les informations là où elles sont disponibles aussi. Parce qu'il y a plein de ressources aujourd'hui. Il y a des podcasts, des livres, des films, des documentaires, des témoignages à l'écrit, des articles de journaux. Enfin bref, le panel est tellement énorme aujourd'hui pour apprendre qu'on ne peut pas après dire « je savais pas ». Enfin, on peut le dire, « je savais pas », des fois ça arrive de se tromper et tout, il n'y a pas de souci sur ça. Nous, en tout cas, on ne juge pas quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais voilà, on peut aussi aller chercher les infos. Et si on ne sait pas aller chercher les infos, pour le coup, on peut demander « est-ce que vous n'auriez pas une ressource pour moi ?» Parce que sur ce sujet, je suis démunie. Et c'est OK d'être démunie sur un sujet. En fait, on ne peut pas tout savoir. Ouais, on ne peut pas tout savoir. On a besoin d'apprendre toute la vie sur tous les sujets, quoi.
Oui, comme tu disais, c'est important de s'adresser aux personnes concernées. Et vraiment, en ce moment, il y a une vague de l'extrême droite qui s'approprie en fait un savoir, des connaissances, des pseudo-ressources concernant la transidentité. C'est dramatique, hein. C'est des réseaux d'extrême droite qui sont extrêmement bien organisés au niveau européen et qui communiquent largement de fausses infos sur la question des personnes trans. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des infos, qui cherchent des ressources, qui tombent sur ces fake news, sur ces discours transphobes, parce que le but, c'est quand même d'éradiquer les personnes trans, des discours extrêmement transphobes, d'où l'intérêt de s'adresser aux personnes concernées. Il y a des associations qui existent, que ce soit pour la communauté queer, il y a le centre LGBT, il y a Orga Solidarité Trans. On peut aller chercher les ressources auprès des personnes concernées plutôt que de tomber sur des fausses ressources sur les réseaux sociaux.
Ce que vient de dire Sylvie, c'est complètement transférable à toutes les autres formes d'oppression. Donc grossophobie, racisme, islamophobie, voilà. On peut aller se renseigner à des endroits sûrs, avec des gens qui sont vérifiés, avec des sources vérifiées. On peut tomber sur des fausses infos, mais il y a surtout des vraies infos à aller chercher aussi. Avec les partenaires du territoire, on a un territoire qui est très bien fourni en acteurs et actrices de tous ces sujets-là. Il y a énormément d'associations, je pense à Naya, mais il y en a plein d'autres, qui traitent de tous les sujets aussi des personnes en situation de migration, en situation de handicap, les personnes sans domicile fixe, enfin voilà. On est sur un territoire où il y a énormément de ressources. Donc après, on ne sait peut-être pas aller chercher, et ça c'est OK, mais du coup, nous, on a créé par exemple un petit carton. Il est complétable, il n'est pas exhaustif, on le complète au fur et à mesure, où on a répertorié tous les actrices du territoire avec leur numéro ou leur mail concernant plein de sujets, donc les violences faites aux femmes, faites aux enfants, l'inceste, SOS suicide, le handicap. Enfin voilà, on essaye de nous répertorier un peu en France et en Indre-et-Loire ce qui existe. Enfin, c'est un petit carton qu'on peut emporter chez soi ou qu'on peut photographier ou alors qu'on a dispo sur les réseaux sociaux. Ça résume un peu tout, quoi. Donc il y a vraiment plein de ressources sur le territoire qu'il faut exploiter parce qu'en fait, elles sont là et elles sont vraies. Et enfin, voilà, c'est l'écosystème dont on avait parlé au premier épisode, quoi, clairement. On est dedans, on y a accès et il ne faut pas hésiter, en fait, à poser des questions quand on ne sait pas, je pense.
Un peu de musique au cours de cette conversation avec les établis. Sylvie, qu'est-ce que tu as choisi ?
On va changer un peu de registre. On n'entend pas beaucoup ça en France. C'est un groupe qui s'appelle Flamenco Queer, qui existe depuis 3 ans. Je les ai rencontrés à Barcelone. Ce sont des personnes qui revisitent le flamenco et qui rappellent que le flamenco peut être inclusif, que c'est un art qui a toujours été marqué par la communauté queer, les personnes trans, qui performaient dans le Barrio Chino à Barcelone, qui est aujourd'hui le quartier du Raval. Et ces deux personnes ont fait cette proposition dans un bar qui s'appelle La Federica, qui est un bar gay, de pouvoir performer, faire du flamenco en changeant les rôles. Donc voilà, elles ont fait un très beau spectacle qui s'appelle Travesti. C'est aussi comme ça qu'elles se sont fait connaître. Et voilà, depuis, elles circulent un peu, alors surtout en Espagne, mais elles commencent à avoir une visibilité internationale. Flamenco queer.
Tengo mi moda, sigo mi estilo, voy a mi bola. Sigo siendo aquella niña desde Badalona, pequeña y peleona, pero toda poderosa. Prepárame el trono y la corona, que aquí no somos perras, somos reinas y leonas. Siempre me critican por travesti flamencona, critícame cariño que mi baile está de moda.
Que no lo vendo cheap, yo soy VIP. I got a lice on me, la diva, la chula, reina del jaleo.
Chula como la sativa, vivo la vida loca, es un chico, una chica, reina de mi mundo, en tu sueño, vida mía, jaleo que manejo, basta ya de hipocresía, no soy tu baby, ni tu muñeca, aunque la mueva así, así como la greca, dame la llave de tu tesoro, no tengo nada, pero lo tengo todo.
Prima, y una sí, mi Messi muy chula, como la sativa, reina, brillo que manejo, muy diva, tan chula, reina del jaleo.
Viva, y una sí, mi Messi muy chula, como la sativa, reina. Y yo que manejo muy viva, tan chula, reina del jaleo.
Flamenco queer, on va passer à une ambiance plus électro, parce qu'ils aiment ça, les établis. Qu'est-ce qu'on s'écoute maintenant, Mélo ?
HVOB, Breeze. C'est une musique électronique qui apparaît dans la série Nudes, notamment dans l'épisode réalisé par Andrea Bescon, qui est danseuse, comédienne, réalisatrice, auteure. Elle est militante aussi contre les violences faites aux minorités et aux femmes. Et elle tient un compte Instagram qui est assez fort, qui reprend en fait les actualités avec les violences produites par les hommes et qui le décrit très factuellement, qui dénonce la problématique de ces meurtres ou de ces agressions sexuelles ou de ces viols. Du coup, c'est une petite musique électronique qui apparaît dans cette série-là et dans cet épisode-là, donc allez, on en parle.
Il y a eu un événement sur notre festival chéri et préféré qui est au quart de tour. Vous savez que les bars sont thématiques et les gens qui servent dans ces bars sont costumés selon la thématique du bar. Donc il y avait des toubibs, il y avait des curés. Et il y avait un bar un peu cabaret décadent type Berlin, des hommes, des femmes, avec des slips en cuir, avec des clous à moitié dénudés, etc. Il me semble qu'il y avait de la déco. J'ai pas compris tout de suite que c'était censé symboliser des paires de couilles qui tombaient du plafond. C'était fait avec des bas. et, si j'ose dire, à égalité, les gens qui servaient dans ce bar, hommes et femmes, étaient tous costumés de la même façon. Or, le fait que des gens en cuir, avec des clous plus ou moins dénudés, servent dans ce bar a pu poser problème. Et effectivement, moi qui trouvais ça plutôt rigolo et commençait à grandir à la fin des années 80, donc une culture professeur Choron, harakiri, haha, humour bête et méchant, poète poète, j'y ai pas vu de problème jusqu'à ce qu'on me fasse remarquer que oui, bah en fait, quand on va boire un coup, on n'a pas forcément envie de voir des corps dénudés. Alors, cela dit, on peut répondre, bah, tu peux aller voir un coup ailleurs. Alors, il n'y a pas forcément besoin de trancher, mais au moins s'interroger sur cette pratique, en fait. Oui, mais bon, avec vos trucs, on peut plus rigoler et on peut plus se foutre à poil. Comment ? On peut plus se foutre à poil à Ocar ? Mais c'est scandaleux. Je sais qu'en tout cas que la thématique de ce bar avait engendré une discussion. Est-ce que pour autant on va s'interdire de créer des ambiances rigolotes de cabaret décadent ? Est-ce que vous avez vu ce bar ? Est-ce que vous auriez un avis, un regard ? Est-ce que tout ça ne serait pas juste un problème de signalétique ? Attention, ici, il y a des gens un peu tout nus, avec des slips en cuir.
Pourquoi pas le trash, pourquoi pas, si c'est annoncé, si les gens qui rentrent dans l'espace consentent à avoir des corps nus. En fait, l'espace public, il n'est pas pensé pour ça non plus, ça reste un espace festif public et tout. Quand on va dans une soirée BDSM ou une soirée annoncée, je sais pas, berlinoise ou je ne sais pas quoi, tu vois, c'est annoncé, donc on sait ce qu'on y trouve, a priori, et puis quand bien même on peut être surpris des fois, mais dans ce cas-là, si on est prévenu à l'avance, ça peut aussi tout changer. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'aller à ce bar-là et de voir des corps, je vais à un autre bar. Et dans ce cas-là, le choix revient à la personne et on lui donne le choix. Et ça, c'est très important. Et moi, ça me fait penser aussi aux t-shirts enlevés. Souvent, les hommes, d'une manière générale, enlèvent leur t-shirt parce que, bah voilà, on enlève son t-shirt, il fait chaud et tout. Et est-ce qu'on a le même regard porté sur le corps de cet homme que quand une femme enlève son t-shirt dans un festival ? Bah non. Parce que d'un seul coup, ça sexualise le corps, là où un torse d'homme va moins être sexualisé. C'est pareil pour la scénographie ou les choses comme ça. Donc, c'est aussi une question d'assumer peut-être la scénographie qui est mise en place, de prévenir, de laisser le choix peut-être aux gens, de voir ou de ne pas voir. Mais en tout cas, pas imposer à l'autre. Je crois que vraiment la question du consentement, elle est partout, quoi.
Il y a une responsabilité, je pense, effectivement, des organisateurs et organisatrices de festivals, quand il et elle proposent une scénographie, de s'interroger sur l'impact que ça peut avoir sur le public. Il ne s'agit pas de s'interdire de faire des choses, il ne s'agit pas d'être, je ne sais pas, pudibon, de plus faire la fête, ce n'est pas ça. C'est juste annoncer les choses, faire une signalétique, faire plusieurs propositions pour que les personnes aussi aient du choix. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, je ne me sens pas à l'aise du tout, donc je vais plutôt aller à un autre endroit où là, je me sens plus en sécurité. Des images que je vois ne m'agressent pas. Je me sens bien dans cet environnement-là, en fait.
Je vais vous narrer une expérience personnelle au quart de tour 2023. Ben ouais, cet après-midi-là, il fait chaud. Et comme je suis un mec 6-7 quinquagénaire blanc et que je suis sur mon terrain, comme il fait chaud, bien sûr, j'enlève mon t-shirt. Sans évidemment me poser la question de est-ce que d'autres gens ont envie de voir le haut de mon corps dénudé ? Parce que j'ai toujours fait ça et je n'ai jamais interrogé cette pratique. Jusqu'à ce que mon amoureuse me dise « Ben non mec, en fait, ça c'est problématique parce que des gens ne peuvent pas le faire, notamment les femmes. » Je dis « Oui, même pas drôle. » Puis bon, au bout d'un moment, j'avais plus trop d'arguments en fait. D'ailleurs, se mettre torse nu dans l'espace public et le festival est un espace public est interdit, même s'il y a une petite zone de tolérance sur cet espace-temps festival. Comme un gros malin, j'ai quand même répondu « Mais vous les meufs, vous avez qu'à vous y mettre torse nu !» Donc comme je n'ai toujours pas d'argument à opposer, bah, j'ai remis mon t-shirt. Tout en pensant aussi au fait que y a eu un temps où c'était quasiment pornographique pour une femme de mettre un pantalon, ou de faire de la bicyclette, ou d'avoir une jupe au-dessus du genou. Comment on fait bouger les frontières aussi ? Comment les femmes ont pu porter des pantalons sans que ça devienne un problème ? Et est-ce qu'on pourrait pas espérer un monde où on pourrait tous se mettre torse nu sans que ce soit problématique pour qui que ce soit ?
On rêve tous et toutes d'un monde où on pourrait se mettre torse nu. Femmes, hommes, autres, ce serait merveilleux de pouvoir se promener comme ça sans avoir un regard porté sur le corps des femmes, parfois sur le corps de certains hommes, un regard hypersexualisé. Alors, comment on fait? C'est de l'éducation, c'est de l'apprentissage, c'est arrêter de sexualiser le corps des femmes. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Hein. Encore aujourd'hui, la femme est considérée comme un objet sexuel par beaucoup de regards. Dans la publicité, on voit ça beaucoup. Alors, beaucoup moins que fin des années 80, 90, 2000, où là, c'était quand même un festival. Hein. Il y avait des pubs avec des femmes, c'était un viol. C'était glamourisé au maximum et il y a plein de personnes, des ados, garçons, filles, qui ont accroché ces photos, ces pubs pour parfum dans leur chambre sans voir en fait que c'était un viol, parfois même un viol collectif. Donc le corps de la femme est encore effectivement très sexualisé. Donc pour l'instant, bah, tout le monde garde son t-shirt, c'est pas mal. Ou alors, je propose, tout le monde se met en croque-top, c'est pas mal non plus. Les croque-tops, c'est des petits hauts très courts. Allez, au-dessus du nombril.
Donc bien entendu, hein, il n'est pas question d'interdire, de bannir, de machin, mais de s'interroger et de remettre en question. Et ça, ça se fait au cours de formations que vous vous proposez, les établis. Parce qu'on le rappelle, il n'y a pas que l'espace Free Paillettes que vous proposez, mais notamment ce type d'accompagnement au questionnement. Puisque je parle beaucoup de mon festival au cœur de Tours Chérie, ce travail-là, vous l'avez fait chez les collègues de Terre du Son avec certains résultats. Et on va rendre les ocardiens et les ocardiennes un peu jaloux dans cette grande course à la déconstruction.
Non, on ne veut pas les rendre jaloux. En plus, c'est deux univers complètement différents, avec des apports différents, avec une histoire complètement différente. Mais en tout cas, ce qui a été chouette dans notre expérience, nous, avec Terre du Son... On a vécu une année où on a eu des propos comme ça un peu problématiques en formation. Nous, on suivait la formation avec d'autres personnes et puis il y avait des petites blagues, des petits machins, des petits trucs. Et puis à force de discuter, à force d'apprendre à se connaître aussi, parce que c'est ça qui compte aussi, c'est le lien de confiance entre nous. De dire qu'on n'est pas dans le jugement, qu'on peut en discuter, qu'on peut rigoler à certains moments, mais qu'on explique pourquoi, par exemple, on peut passer à d'autres blagues et tout. Avec les années, bah voilà, maintenant, il y a des gens qui nous disent « Ah, avant je disais ça, maintenant je le dis plus ». Et ça, pour nous, c'est une marque aussi que ça évolue, que ça change, et même nous, hein, qu'on évolue aussi dans toute notre pratique, dans les échanges qu'on a avec, que ce soit les organisateurs de Terre du Son, mais ça peut être dans tous nos autres espaces. Enfin, voilà.
Donc, cher Free P, cher Free Paillette, Mélo, Sylvie, et puis tous les gens avec lesquels vous travaillez, on l'aura bien compris, il n'est pas question de jouer les pères et mères la rigueur, de faire dans le politiquement correct excessif, ni d'interdire, ni de faire de la morale, mais tout simplement déjà de se re-questionner, de s'interroger sur nos pratiques, d'échanger entre nous, plus se parler, entretenir ces liens de communauté, et puis quitte à utiliser des grands mots peut-être déjà très galvaudés, mais faire preuve de bienveillance et de savoir vivre ensemble.
Oui, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, on n'est pas là pour faire la morale, réduire les fêtes, les plaisirs, les joies. C'est plutôt élargir ça à tout le monde, en fait. C'est un pas vers la liberté, mais pour toutes. Pour tous, pour tous, pour toutes, je ne sais pas comment le dire, mais vraiment que il n'y a pas qu'une partie de la population pour qui c'est la fête. Et pour qui c'est la liberté. Donc se former, se déconstruire, c'est, moi je trouve ça assez merveilleux en fait. C'est vraiment un grand espace de liberté qui s'ouvre devant nous.
Mélo.
La déconstruction, c'est aussi reconstruire quelque chose avec autre chose. En rien de secret, tout se transforme, vraiment. Donc on peut aussi partir de loin et arriver à autre chose. Enfin voilà, il y a tout qui est possible. Rien n'est immuable.
Et ça ne veut pas du tout dire qu'on va moins rigoler qu'avant. Peut-être qu'on va peut-être mieux rigoler ensemble.
Exactement.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cet échange avec Sylvie et Mélo, des établis, qu'on retrouvera avec plaisir au prochain épisode de cette série contre les VHSS, à réécouter sur notre site polymixetlavoixoff.com. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.